On s'en va rejoindre au bout du fil Florence Menée. Bonjour, comment allez-vous?
Bien vous-même.
Oui, ça va bien aussi. Nouveau livre, La dernière promenade, faire le deuil de mon animal de compagnie. D'abord, comment est arrivé ce livre-là?
Écoutez, moi, il faut vous dire que je suis une amoureuse des bêtes depuis la plus tendre enfance. Je suis le genre de fille qui, dans la cour d'école, je ramassais les vers de terre pour pas qu'on marche dessus. Donc, vous voyez un petit peu comme j'étais folle.
Oui.
Mais en tout cas, bref, moi, j'adore les animaux depuis très longtemps. Et bon, j'ai perdu deux chiens coup sur coup à quelques mois de distance, il y a environ 2 ans maintenant. Et déjà, avant ça, j'avais eu l'idée d'en parler parce que le deuil animalier, les gens l'évoquent beaucoup sur les réseaux sociaux ou en privé, mais il y a un petit peu un tabou autour de ça. C'est que, oui, on a le droit d'être un petit peu triste quand le chien ou le chat meurt ou un autre animal, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il ne faut pas trop l'exposer. C'est quand même pas un humain, c'est ce qu'on nous dit. Donc, j'ai voulu rédiger un ouvrage qui se voulait à la fois un guide pour les gens qui ont perdu un animal, mais aussi explorer un petit peu la relation qu'on a avec les animaux dans le Québec, la France moderne aussi, puisque le livre va être vendu en France également.
On aborde le deuil pour les enfants, parce que pour plusieurs enfants, c'est le premier deuil auquel ils auront à faire face, et c'est pas nécessairement facile pour eux ce qui se passe.
Tout à fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe selon l'âge. Hein. Un tout petit enfant, pour lui, il perd un compagnon de jeu, du jour au lendemain, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique ça? Un adolescent, c'est différent. Hein. C'est souvent l'animal avec lequel il a grandi, qu'il a connu tout petit et puis qu'il a accompagné dans ses peines, dans les jours plus difficiles. Alors, il y a tout un chapitre exploré avec plusieurs intervenants, dont Deuil Jeunesse, qui m'a donné beaucoup de bonnes informations très pertinentes sur comment aborder le deuil avec les enfants, comment parler selon les âges, hein, selon la situation. Comment aussi pour les parents ne pas plaquer nos émotions sur nos enfants? Il peut arriver que même qu'un enfant n'ait pas de grande réaction à la mort de son animal. Il ne faut pas lui imposer notre peine à nous. Non plus, il faut minimiser la sienne. Hein. Il ne faut pas dire, par exemple, bah oui, mais ta tante est en chimiothérapie, c'est bien plus grave. Non. C'est son deuil à lui, c'est sa relation à lui. Alors, il faut vraiment être respecté la façon dont il le vit et surtout être à l'écoute et attendre que l'enfant manifeste le besoin de parler, surtout les adolescents. Hein. On dit, la porte est ouverte. Je sais que tu n'as pas envie d'en parler pour l'instant, mais s'il ressent le besoin, je suis là, je suis à l'écoute. Donc, vous verrez, il y a beaucoup de bons conseils. J'ai appris beaucoup de choses dans ces entrevues que j'ai réalisées avec Deuil Jeunesse et avec d'autres intervenants. J'ai aussi parlé à la Fondation Mira de la relation d'aide. Les chiens de travail également, c'est une relation très forte. Et j'aborde le deuil de ce genre de relation aussi dans le livre.
Est-ce qu'il faut faire une différence entre les différents types de deuil? Parce qu'évidemment, il y a les animaux qui meurent d'un accident carrément en traversant la rue, et il y en a d'autres qui meurent d'une longue maladie, tout simplement. Donc, ce n'est pas le même type d'étape.
Ça, c'est une très bonne question, je trouve. Vous avez tout à fait raison. Un chien qui a vécu 14, 15 ans, puis qui tranquillement décline, et puis bon, qui meurt, c'est quand même probablement, je dis pas toujours, moins traumatisant que le jeune chat qui sort, qui se fait frapper par un camion. Alors, en effet, ce qu'il y a de bien, entre guillemets, avec l'animal vieillissant et avec l'euthanasie, c'est qu'on a le temps de s'y préparer et de préparer les membres de la famille. Le vétérinaire peut nous y aider. Dans le cas d'un traumatisme, évidemment, là, ça va être important de mettre ça à plat. Si on sent qu'on n'arrive pas à passer au-delà d'un deuil, entre guillemets, normal, hein, pour autant qu'on puisse parler de normalité dans le deuil, là, si au bout de 2, 3 semaines, on commence pas à renouer un peu avec nos activités, là, il y a peut-être lieu d'aller consulter ou de faire consulter le membre de la famille dont on voit qu'il souffre, qu'il est souffrant. Il y a des psychologues, même des psychologues normaux, vont aborder ces questions-là, mais il y a aussi des thérapeutes en deuil animalier, dont une, France Carlos, qui est quand même une sommité en la matière au Québec, et qui reçoit chez elle les gens. C'est pas des thérapies à long terme, c'est 1, 2, 3 sessions au maximum, et ça aide vraiment à mettre à plat et à aller de l'avant.
Est-ce que quand il y a une décision à prendre sur la fin de vie d'un animal, est-ce qu'il faut intégrer tout le monde de la famille, même les plus petits?
En fait, c'est une bonne question aussi. Ça dépend. Un enfant de 2-3 ans,
Non, évidemment.
faut quand même pas trop lui en dire. Hein. Faut pas. Puis faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise. On dit pas le chien s'est endormi parce que l'enfant aura peur de s'endormir après des
Ouais.
choses comme ça. Mais il faut s'adapter donc à l'âge de l'enfant. Mais je dirais qu'à partir d'une dizaine d'années, il faut que ce soit intégré en effet. Pas nécessaire que l'enfant vienne, peut-être même pas souhaitable, ça dépend des enfants. Mais au moins qu'il sache ce qui s'en vient, qu'il ne revienne pas à la maison de l'école à la maison et qu'il trouve le panier vide, ce serait vraiment traumatisant. Donc oui, être ouvert, ne pas dédramatiser, mais sans mentir, hein, sans dire oh, il est parti ou oh il était vieux, il avait 12 ans. Alors vous imaginez un enfant de 10 ans qui dit 12 ans c'est vieux, c'est moi à 12 ans je vais mourir. Donc, c'est très important le choix du vocabulaire. Et pour ça aussi, les vétérinaires peuvent vous aider. Si vous avez votre vétérinaire qui connaît bien votre animal, il peut donner des conseils. Donc, oui, intégrer les membres de la famille, mais à leur niveau et selon leur âge.
On hésite souvent à aller rapidement s'acheter un autre animal lorsqu'on perd un animal. Certains ont l'impression de trahir un peu la relation qu'ils ont eue avec leur chien, leur chat ou peu importe l'animal au cours des années. Est-ce que c'est une bonne chose de rapidement passer à autre chose?
Il n'y a pas une réponse par oui et par non. Et moi, je dois vous dire que je ne suis pas une spécialiste du deuil animalier. Je suis une journaliste. En fait, j'ai un travail journalistique avec des tas d'intervenants, des psychologues, des thérapeutes, des gens qui travaillent avec les animaux, la SPCA, etc. Donc, ils me disent qu'il n'y a pas de réponse noire ou blanche. Hein, je crois qu'il faut être à l'écoute de ses sentiments. Parfois, on a la tentation de reprendre un animal pour pour mettre un pansement rapide, mais il ne faut quand même pas faire l'économie de prendre le temps, le recul et de faire le deuil de la relation qu'on vient de perdre, c'est-à-dire de repenser au bon moment, de faire un petit rituel aussi, ça aide à mettre à plat. Après ça, si vous vous sentez d'attaque pour avoir un autre animal, il n'y a pas de mal à ça, et ça ne veut pas dire que vous êtes sans cœur parce que vous continuez à aimer les animaux et à aimer la relation avec l'animal. Mais il ne faut pas courir, il faut prendre le temps de prendre du recul. Je crois que ce serait ça la leçon que j'ai retenue de l'entrevue que j'ai faite là-dessus.
Est-ce que cette rédaction-là, cette recherche-là, ça vous a permis de faire le deuil de vos propres chiens?
Ben, c'est une très bonne question aussi, ça, parce que le deuil était quand même déjà entamé, parce que c'est long, l'écriture d'un livre, tout de même, mais ça m'a surtout permis de dissiper un peu la culpabilité. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de maîtres, de chiens, de chats, etc., qui vont se reconnaître là-dedans, c'est qu'on se sent souvent coupable, parce que ce que j'ai appris dans la rédaction de ce livre, c'est que l'animal, contrairement à un être humain, à part un petit enfant ou quelqu'un de très malade, l'animal dépend totalement de vous pour tous les aspects de sa vie. Hein. Si vous ne l'élevez pas le matin pour le nourrir, il va peut-être mourir de faim, il faut le sortir. Alors donc, quand l'animal disparaît, on se dit, il dépendait de moi, donc j'ai dû faire quelque chose de mal, j'ai dû faillir à ma tâche. Et ça, moi, ça m'a permis d'avancer, de me dire, c'est vrai, je n'étais pas peut-être pas le maître parfait pour mes chiens, mais ça m'a donné amitié, amour, soin pendant toutes ces années. Et ça m'a aidé, en effet, à dissiper la culpabilité, un peu latente, qui existait. Et je crois que ça peut faire ça, en effet. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a des tonnes de témoignages. Hein, j'ai des entrevues, mais il y a beaucoup de témoignages individuels. Et beaucoup de gens se sentent coupables. Et mon but aussi, c'est de montrer que vous n'êtes pas tout seul, puis il n'y a pas de raison d'être coupable. Vous avez aimé votre animal, la preuve, c'est que vous êtes triste. Hein, alors, donnez-vous une chance.
Et un côté particulier avec l'animal, c'est qu'on le sait qu'il va vivre moins longtemps que nous. La durée de vie n'est pas longue. Là.
Tout à fait, à moins d'une tortue des Galapagos. Là, mais en effet, l'animal ne vit que quelques courtes années. Et ça, c'est ce que disent des gens comme la vétérinaire Annie Ross, qui a préfacé l'ouvrage et qui a collaboré. Ouais. C'est que dès que l'animal commence à vieillir, il faut commencer à s'habituer mentalement à l'idée que c'est un peu du temps emprunté, là, dans quelques années, la fin va être proche. Donc, il faut en être conscient sans trop s'apesantir. Il faut quand même vivre la vie, puis profiter des bons moments. Mais être conscient que nos animaux, on va leur survivre en toute probabilité, sauf, il y a le cas aussi, je l'aborde dans le livre, les gens âgés qui ont un animal, puis qui doivent le placer, puis qui est décliné, ou parfois même meurent. Et là, c'est l'animal qui nous survit. Ça, c'est une autre problématique également que j'aborde.
Est-ce que c'est important qu'il y ait des témoignages, en plus des experts, qu'il y ait des témoignages dans le livre?
Oui, mais je voulais pas un livre désincarné. C'est pas doctoral, parce que, comme je vous le dis, il n'y a pas de réponse noire et blanche. C'est des petites choses qui peuvent guider, qui peuvent alléger la peine, qui peuvent nous aider à avoir un peu la lumière. Et je trouvais que les témoignages, ça étayait bien. Chaque chapitre est axé autour de ces témoignages spécifiques, par exemple sur les rituels. Alors, des gens qui parlent de la façon dont ils ont enterré leur animal ou pas, ou comment ils ont vécu ça. Donc, je voulais quelque chose de concret, de vivant. C'est un peu paradoxal ce que je dis là. Puis de l'humour aussi, parce que c'est pas tout triste. Il y a de l'humour aussi dans le livre.
Évidemment, quand on fait un travail journalistique, on apprend toujours des rencontres qu'on fait. J'imagine que ça a été votre cas encore une fois avec ce livre-là.
Très riche, vraiment. Dans le monde des animaux, il y a toutes sortes de gens. J'ai parlé beaucoup de la SPCA, à Mira, aux gens du haut de Saint-Félicien, parce qu'il y a le contexte du deuil en milieu zoologique. Quelqu'un qui s'occupe d'un grand singe pendant des décennies, puis qui le perd, il est triste aussi. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et je crois que les gens vont apprécier.
C'est important que ce soit vaste comme ça, parce qu'on aurait pu dire carrément le chien, le chat, mais il y a les chevaux, il y en a plein, là.
Je touche beaucoup aux chevaux. J'ai parlé à Chamille Cadoret qui a créé les refuges Galahad pour les chevaux réformés, les chevaux en retraite. Et donc, je voulais vraiment pas me limiter aux chiens et aux chats qui sont évidemment les animaux les plus courants hein, dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a déjà certains ouvrages plus antérieurs là sur le sujet. Et à travers toutes les formes d'animaux, je voulais explorer notre relation et comment le deuil peut nous affecter à différents degrés. C'est sûr qu'en général, quelqu'un qui perd un poisson rouge sera moins affecté que quelqu'un qui perd un chien qu'il a depuis 14-15 ans. Mais encore là, ça dépend. Si le poisson rouge représentait le mari qui est décédé l'année précédente, ça peut être traumatisant aussi. Donc c'est pour montrer que l'humain et l'animal sont complexes. Et il n'y a pas une solution toute faite. Chaque deuil est différent.
Est-ce que plus l'animal est un confident, plus c'est difficile le deuil?
Oui, dans le fond, l'intensité du deuil, même avec les humains, c'est pareil. Ouais. En fonction de l'importance qu'on attache à cette relation-là. Hein, si vous avez un cousin lointain qui meurt, que vous avez vu deux fois dans votre vie, bon, vous allez être triste, mais ce ne sera pas pareil que si c'est votre maman hein, ou votre frère avec qui vous partagez tant de complicité. Mais l'animal, c'est pareil. Un animal qui est à vos côtés depuis des années, qui vous accompagne le soir auprès près du feu et puis qui ne vous lâche pas, sera plus important pour vous qu'un animal croisé de façon éphémère, c'est évident.
Le deuil des animaux, on l'a dit, c'est un peu tabou, il y a des préjugés autour de ça. Est-ce que les préjugés viennent un peu des gens qui n'en ont pas eu d'animaux, quelque part?
Vous mettez vraiment le doigt là-dessus, parce que oui, il y a des gens qui n'aiment pas les animaux pour toutes sortes de raisons, mais de ce que j'ai pu trouver dans ma recherche, là, puis en parlant avec tous ces gens-là, c'est qu'il y a souvent une culture familiale. Si, enfant, vous avez été habitué, vos parents avaient des chats, des chiens, ils adoraient ça, vous allez probablement être plus porté à en avoir vous-même à aimer les animaux. C'est pas toujours, là, mais c'est une tendance, tout de même. Alors que si chez vous, votre maman ne peut pas supporter un poil de chat, vous voulez voir sa propre nickel et tout, ben, y a de bonnes chances que vous soyez pareil à l'âge adulte.
Et évidemment, depuis la sortie du livre, ça a eu beaucoup de réactions, j'ai l'impression. Est-ce que ça fait du bien de voir qu'il y a eu une réponse du public face à ça et que ça venait combler un besoin, quelque part?
Tout à fait, c'est rassurant parce que dans le fond, hein, on écrit un peu pour soi, mais on écrit pour les autres. Moi, vraiment, je voulais, en me faisant du bien, essayer de faire du bien aux autres. Je savais avant que c'était un sujet très porteur parce que j'avais vu tous les jours sur les réseaux sociaux, dans mon réseau, là, des gens qui parlaient « Ah, mon chien est mort, je suis triste et tout ». C'est vrai que c'était très poignant déjà. Mais là, à la suite de quelques entrevues que j'ai effectuées, j'ai reçu plein de témoignages et ça valide vraiment la démarche et puis ça me satisfait vraiment.
Et il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ce type de sujet-là. Que je m'attends?
Il y a quelques petits livres, petits fascicules, how to un peu, là, si vous voulez.
Ouais.
Mais en effet, il y avait comme une lacune à combler. Et j'espère que j'ai pu participer à la combler, en tout cas. Je ne suis sûrement pas la seule qui va écrire sur le sujet, mais je suis assez satisfaite du livre parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Puis, c'est grand public, hein, donc c'est vraiment facile à lire dans un style très direct. Et puis, on peut en lire un chapitre, puis mettre ça de côté, puis le reprendre. Donc, je crois que c'est agréable à lire aussi.
Il fallait que ce soit fait comme ça, parce que si ça avait été trop scientifique, ça aurait peut-être moins touché les gens, peut-être.
Tout à fait. Il faut que ce soit vraiment grand public. Quand on est en deuil, on n'a pas envie de se taper une grosse brique indigeste, hein, n'est-ce pas?
Et là, les prochains mois, ça ressemble à quoi pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture? Je sais que vous avez écrit beaucoup au cours de votre carrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent?
Oui, absolument. Je suis sur un projet d'un roman policier, un roman noir, parce que aussi mon autre spécialité, le roman noir. Et puis également, je travaille sur un ouvrage qui est constitué de portraits de femmes en sciences, donc l'excellence au féminin en sciences au Québec. Et c'est un livre qui va être publié aux éditions de l'Homme, qui va paraître au printemps prochain. Et donc ça, c'est un bon gros travail qui me demande pas mal de jus.
Et est-ce que c'est difficile de rencontrer des femmes scientifiques présentement parce qu'ils sont un peu occupées, j'ai l'impression?
Ben, en fait, elles prennent le temps parce que je pense qu'elles comprennent l'importance de faire rayonner la science québécoise, hein, l'excellence québécoise. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai eu des problèmes à les rencontrer. Il y a Brenda Milner, qui est une grande scientifique qui a 104 ans et que je n'ai pas pu rencontrer, malheureusement, parce qu'ils n'ont plus d'entrevue. Mais pour le reste, les gens collaborent vraiment beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de Rémi Thirion, qui est le scientifique en chef du Québec, qui m'a aidé à élaborer la liste des femmes, qui bien sûr une liste n'est pas exhaustive, on pourra faire 20 ouvrages du genre, là. Mais non, ça va très bien, là, j'en ai déjà rencontré une dizaine, puis encore quelques-unes à venir, puis j'aurai bientôt fini.
Et ce projet sort au printemps, et le roman serait prévu pour quand?
Oh là, plutôt pour l'automne suivant, je dirais. Mais il est bien avancé quand même.
Madame Monet, j'invite les gens à se procurer la dernière promenade, faire le deuil de mon animal de compagnie. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Et un grand merci de m'avoir reçu. C'est vraiment gentil de votre part.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.